VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous. 11h, temps universel. La Libye est opposée à l'ouverture sur son sol de camps de migrants souhaitant rallier l'Europe. Une proposition de dirigeants européens pour limiter les arrivées via la Méditerranée a déclaré aujourd'hui le chef de la diplomatie libyenne. Un tel projet signifierait que l'Union européenne refuse d'assumer ses responsabilités et les fasse peser sur nos épaules, a estimé Taher Siala lors d'une réunion de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE à Vienne. L'idée est en outre très éloignée des réalités du terrain, alors que la Libye est toujours déchirée par une guerre civile, a ajouté M. Siala. La grève des fonctionnaires, travailleurs du public, enseignants et étudiants continue au Tchad, où le gouvernement a ordonné des réformes draconiennes pour tenter de sortir de la crise économique. Les enseignants ont fait savoir au gouvernement qu'ils ne reprendraient pas le travail tant que leurs arriérés de salaire ne seront pas ajustés. Madeleine Alingué, porte-parole du gouvernement, affirme que le Tchad compte sur ses partenaires pour sortir de l'impasse financière.
Le gouvernement est dans la recherche de la stabilisation de la situation financière du pays. Et dans ce sens-là, toutes les recherches, tous les besoins de stabilisation sont mises en œuvre pour donner aux gens satisfaction. Le gouvernement a prôné des dialogues sociaux pour essayer d'établir un canal de communication qui puisse stabiliser la situation. Nous allons vers nos partenaires économiques et financiers qui, à la considération de l'effort que réalise le Tchad dans la paix et dans la stabilisation de la région, espèrent également recevoir cette assistance et cette aide qui lui permettra de couvrir ses acquis sociaux qu'elle a signés avec ses populations.
Madeleine Alingué, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement tchadien. En République démocratique du Congo, l'impasse politique continue. Le mandat du président Joseph Kabila se termine le 19 décembre et il est presque impossible d'organiser des élections d'ici là. Le dialogue national est boudé par une partie de l'opposition dirigée par Étienne Tshisekedi qui veut un dialogue inclusif sans le facilitateur Edem Kodjo. Quelle solution donc pour sortir de la crise? Idriss Fall a joint à Bruxelles, Emery Damien Kalouira, il est le président de la coalition des Congolais pour la transition.
C'est totalement inacceptable d'imaginer M. Kabila au pouvoir au-delà de décembre prochain. La coalition des Congolais pour la transition appelle M. Kabila à se ressaisir et à quitter immédiatement le pouvoir conformément à l'exigence de la loi fondamentale de notre pays, la Constitution. Étant donné que les élections ont échoué à cause de la mauvaise foi du gouvernement, le faux dialogue a également échoué. La coalition des Congolais pour la transition va procéder d'ici novembre par les consultations de toutes les forces politiques et sociales pour mettre sur pied un gouvernement intérimaire du salut public.
Ce serait sortir du cadre légal, un gouvernement de transition sans avoir aussi la Constitution avec soi.
Justement, la Constitution, dans l'alinéa premier de l'article 64, nous donne cette prérogative pour sauver la République démocratique du Congo du chaos actuel. Donc nous avons le choix entre laisser le Congo disparaître et nous réunir, nous tous, issus des forces réellement acquises au changement au Congo, dans ce gouvernement du salut public qui va, de façon pacifique, conduire aux vraies élections dans un délai de 24 mois minimum et 36 mois maximum.
Vous parlez de 2 ans alors que la CENI quand même propose 500 jours.
Oui, la CENI propose 500 jours sur instruction de M. Kabila. Nous demandons à M. Kabila, la communauté internationale a également demandé à M. Kabila de se prononcer clairement sur son avenir politique, d'apaiser la tension en disant « Écoutez, j'ai épuisé mes 2 mandats et je vais quitter le pouvoir ». M. Kabila ne veut pas le faire, il préfère instrumentaliser la CENI et la Cour constitutionnelle qui sont essentiellement animés par ceux qui sont les proches conseillers de M. Kabila et nous ne pouvons pas l'accepter. Personne n'a le droit de replonger le Congo dans un chaos. Ils ont géré et ça suffit. Ils doivent quitter le pouvoir avant qu'on allonge la liste des martyrs.
Emery Damien Kalouira, président de la coalition des Congolais pour la transition.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Nigeria, la présidence a confirmé la mise en vente de 2 jets privés appartenant au gouvernement. Cette session intervient dans un contexte de crise économique et de restrictions budgétaires mises en place par le président Muhammadu Buhari. Nani Talani pour les détails.
La petite annonce publiée dans les journaux pour la vente de 2 avions, un jet privé Falcon 7X et un Hawker 4000, avait été autorisée par la présidence, a fait savoir Garba Shehu, le porte-parole de M. Buhari, dans un communiqué diffusé mardi soir. Garba Shehu a rappelé que lors de sa campagne électorale, Muhammadu Buhari avait promis de couper les dépenses gouvernementales inutiles. La vente de ces 2 avions de luxe devrait rapporter à l'État nigérian près de 20 millions d'euros. L'annonce indique que la mise en circulation des 2 appareils date de 2011 et 2012, années qui correspondent au mandat de l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan. L'administration Buhari accuse régulièrement l'administration précédente d'avoir volé des sommes astronomiques dans les comptes de l'État pour expliquer la grave crise économique que traverse le Nigeria et s'est engagé à mener une guerre contre les dépenses inutiles et contre la corruption. Or, le mois dernier, une enquête du journal nigérian The Punch avait créé la polémique en révélant que le gouvernement actuel a dépensé 14 millions d'euros pour l'entretien de ses 10 avions privés malgré la récession. Les comptes de l'État nigérian sont au plus bas en raison des nombreuses attaques de militants sur les infrastructures pétrolières qui ont fait chuter la production d'hydrocarbures et avec la chute du prix du baril du pétrole qui représente 70% des revenus de l'État.
Pénurie de gaz butane au Niger, les distributeurs ont cessé toute activité depuis des jours pour exiger du gouvernement le rétablissement d'une subvention de l'État. Cette pénurie affecte durement les populations habituées à cette source d'énergie depuis 2011. Sur les raisons de cette pénurie, écoutons Lamine Sidi, il est le président du groupement des professionnels du gaz nigérien.
Ce qui nous a amené à arrêter nos activités, c'est que nous vivons d'un problème depuis 2011, depuis que le prix a été arrêté, depuis le démarrage de la raffinerie. Avant le démarrage de la raffinerie, le gaz était subventionné par un fonds qui a été créé pour ça, qu'on appelle fonds de l'énergie. Bon, malheureusement, depuis ce démarrage-là, le fonds de l'énergie n'a jamais accompagné. C'est comme si ce sont les sociétés qui sont en train de subventionner le gaz à la place de l'État. On tourne à perte. Ce qu'on vend ne nous permet pas de payer notre principal fournisseur. Donc on était obligé d'arrêter. Et vous savez, un privé, ce qui le pousse d'arrêter une activité, c'est que c'est vraiment grave.
Au Kenya, 6 personnes ont été tuées dans une attaque attribuée aux islamistes somaliens, Shebab. L'attaque a visé un complexe résidentiel de la ville de Mandera dans le nord-est du Kenya, à moins d'un kilomètre de la frontière somalienne. Les Shebab affiliés à Al-Qaïda cherchent à renverser le gouvernement somalien, soutenu à bout de bras par la communauté internationale. Mais ils mènent aussi des attaques au Kenya qui fournit depuis 2011 un contingent militaire à la force de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM. Le Portugais Antonio Guterres est assuré de succéder à Ban Ki-moon comme secrétaire général de l'ONU. Après un vote informel hier du Conseil de sécurité, il pourrait être élu aujourd'hui pour succéder au Sud-Coréen qui a fait 2 mandats de 5 ans, Edi Sango.
4 grandes puissances ont émis hier un vote favorable et une a été sans opinion. Mais aucun des 5 membres permanents n'a voté contre Antonio Guterres. L'ambassadeur russe Vitaly Churkin, qui dirige les conseils de sécurité ce mois-ci, a déclaré que M. Guterres était clairement les favoris. Il a annoncé un vote formel ce jeudi pour confirmer ses choix par acclamation. 10 candidats étaient en lice et les Portugais ont terminé en tête des 5 premiers. Après les faveurs des 15 membres du Conseil de sécurité, les candidats retenus devront aussi recueillir les votes favorables de l'Assemblée générale avant de prendre ses fonctions le 1er janvier prochain. Antonio Guterres, 67 ans, a été Premier ministre du Portugal de 1995 à 2002, puis patron pendant 10 ans du Haut Commissariat pour les réfugiés. Ingénieur de formation, fervent catholique, il s'est décrit comme un homme d'action et s'est battu sans relâche pour les droits des migrants.
Au moins 20 rebelles syriens ont été tués aujourd'hui dans une explosion à la frontière entre la Syrie et la Turquie, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, qui n'était pas en mesure de donner dans l'immédiat les causes de la déflagration. L'OSDH a précisé que l'explosion qui a eu lieu au point de passage d'Atmé, côté syrien, a également fait une 20aine de blessés. Jean-Roger Billon, vous retrouverez Henri Francis dans 50 minutes. Bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.